nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il est des gouttes d'eau, mes bien chers frères, qui font déborder le vase. Et la parabole de l'évangile que nous venons d'entendre aujourd'hui est une illustration par excellence de cet adage populaire. Une goutte d'eau suffit à faire déborder un immense vase. Pour le roi de cette parabole, la coupe est pleine. On peut bien le comprendre. Un de ses serviteurs lui doit 10 000 talents. 10 000 talents, c'est-à-dire, si l'on transfère en euros, plusieurs dizaines de millions d'euros. Il s'agit d'une dette d'une entreprise, il s'agit d'une dette, voire même d'un petit État, mais certainement pas de la dette habituelle d'un individu. Et pourtant, on nous dit que là, c'est d'un individu qu'il s'agit. La somme colossale laisse deviner qu'on a affaire non seulement à un incompétent, mais par surcroît à quelqu'un qui est obstiné. Parce qu'on n'accumule pas une dette comme ça en une journée. Il a donc fallu que des mois passent, peut-être des années, sans que cet homme ait la simplicité de demander à une personne compétente ou à son maître de l'aide en de multiples occasions. La colère du maître est bien compréhensible, soucieux de récupérer ne fût-ce que la portion congrue de ce qu'on lui doit, il fait vendre le mauvais serviteur, sa femme, ses enfants et ses biens, vous l'avez entendu comme moi, dans la parabole. Remarquons que cette peine nous permet de comprendre déjà qu'on a affaire à un maître qui est assez bon. D'aucuns auraient, et à la limite on aurait pu comprendre avec les mœurs de l'époque, d'aucuns auraient tout simplement mis à mort ce serviteur et peut-être même toute sa tribu au motif qu'il devait une telle somme. Et lui se contente de le jeter en prison jusqu'à ce que la dette soit épongée. Se jetant aux pieds du maître, voilà que pour implorer son pardon, le serviteur promet, il promet quoi? De tout rembourser. Et bien sûr, il promet de tout rembourser, c'est-à-dire des millions d'euros, alors même qu'il est avancé en âge et qu'il faudrait, c'est clair, à ce serviteur plusieurs vies de suite pour pouvoir s'acquitter d'une telle dette. Il faut être clair, ce serviteur ment, tout simplement. Il sait qu'il n'aura pas les moyens de rembourser et il faut être clair également, le roi lui fait grâce alors qu'il n'est pas dupe, ce grand roi, et qu'il se doute bien que son serviteur jamais n'épongera sa dette. Somptueuse magnanimité du maître, évidemment, qui se satisfait de quoi? D'une demi-repentance d'un serviteur nullissime, au simple motif que celui-ci se met à ses pieds et lui demande pardon. Il est ému de voir quoi? De voir tout simplement sa bonne volonté. Les choses se gâtent quand le serviteur, pourtant gracié à l'instant, se jette sur l'un de ses propres serviteurs ou débiteurs, dont la dette est évidemment dérisoire par rapport à sa dette propre. Il s'agit, nous dit-on, d'une bagatelle de quelques centaines d'euros. Une telle mesquinerie produit évidemment sur le maître l'effet d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est par là que j'ai commencé et c'est de cela que je voulais parler. Faut-il que le serviteur soit crétin? Il avait obtenu que la coupe, pourtant remplie jusqu'à ras-bord de cette dette qu'il devait à son maître, la coupe, pourtant pleine jusqu'à ras-bord de colère du roi, soit totalement siphonnée. Voilà ce qu'il avait obtenu. Qu'on la vide en vertu de quoi? D'un simple acte, une demande de pardon. Et voilà, soudain, que par un simple acte, en sens inverse, cet idiot-là, non seulement provoque un nouveau déferlement de colère de son maître, c'est-à-dire que la coupe se remplit d'un seul coup, mais une goutte d'eau, cet acte tout simple mais excessif, fait déborder le vase et le maître en vient aux pires extrémités. Cette parabole, on s'en doute, résume parfaitement nos relations avec Dieu. On y découvre sans surprise la disposition inouïe d'un Dieu qui est prêt à pardonner, qui ne demande même qu'à pardonner, et qui se fait une joie insondable alors que des pires forfaits ont été commis, moyennant un strict minimum, qu'on reconnaisse ses fautes, qu'on soit contrit de cette faute, mais que cette contrition même soit imparfaite, peu importe aux yeux du maître. Parce que le serviteur qui est venu se jeter à ses pieds, je vous l'ai dit, était un menteur. Il savait qu'il n'arriverait pas à rembourser. De quoi avait-il peur et pourquoi s'est-il mis à ses genoux? Parce qu'il avait peur de la sanction. C'est ce qu'on appelle en théologie catholique, comme vous le savez bien, la contrition imparfaite. Et voilà que le roi, c'est-à-dire le bon Dieu, a accepté, même si cette contrition était imparfaite, même si le motif n'en était pas le plus noble, ce n'était pas par souci de réparer ce qu'il avait blessé chez le maître, pas du tout, c'était dans son intérêt propre, et voilà que le roi s'en est satisfait. Il faut vraiment très peu pour être pardonné, mes frères. C'est quelque chose parfois que nous avons du mal à comprendre. Nous tergiversons, nous procrastinons, nous renvoyons au calende grec une simple confession, au motif, nous semble-t-il, que Dieu ne saurait nous pardonner parce que c'est toujours les mêmes fautes que nous devons accuser devant le prêtre et en réalité devant Jésus-Christ. Mes frères, nous voyons ici que cet argument ne tient pas, qu'il s'agit d'une ruse de notre nature ou d'une ruse de l'autre, bien sûr, pour nous tenir loin de la miséricorde de Dieu. Un simple geste, et Dieu vous pardonne tout. C'est d'ailleurs ce qui frappe les païens, c'est ce qui frappe certains catholiques un peu mécréants, que l'on puisse se contenter de se mettre devant le prêtre avec une contrition imparfaite pour obtenir le pardon de meurtre, de vol incroyable, de viol peut-être. Et pourtant, telle est la logique de Dieu. Il faut tenir ferme là-dessus, mes frères, non seulement lorsque nous parlons de la miséricorde de Dieu aux autres, mais dans notre propre vie spirituelle, soyons vraiment convaincus que tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu, c'est ce que nous dit l'Écriture à plusieurs reprises. En même temps, on découvre dans cette même parabole, en même temps que la miséricorde inouïe de Dieu, on découvre, moyennant un seul acte, on découvre que moyennant un seul acte également, on peut être damné. Un seul acte. Alors, bien sûr, pas n'importe quel acte. Vous me connaissez un peu, vous savez que je ne suis pas trop du genre Torquemada ou disons, avec outrance, janséniste. Le salut est offert à tous, bien sûr, mais un seul acte suffit à notre damnation. Comme un seul acte suffit à ce que ce serviteur mauvais soit emprisonné, en réalité, pour la vie éternelle. Un seul acte, quel est-il cet acte? Oui, vous me direz, c'est quand même intéressant de savoir ce qui nous vaut la damnation. Un seul acte, le manque de pardon. Le fait que nous retenions un grief à l'égard d'un seul de nos frères et que nous ne voulions pas revenir sur cette absence de pardon et sur ce grief que nous lui imputons. C'est le début du mois de novembre, j'informe ceux qui sont venus aujourd'hui peut-être pour avoir la messe de Requiem, la messe pour le repos de l'âme des défunts, que dans la forme extraordinaire du rite romain, lorsque cette fête du 2 novembre tombe un dimanche, alors on célèbre cette messe de Requiem et la fête des morts le lundi qui suit, voilà, pour pouvoir honorer tout simplement le dimanche, qui est la fête de la résurrection. Et tout ça pour vous dire que nous sommes à l'entrée du mois, au début du mois de novembre, qu'il nous faut garder devant les yeux, bien sûr, nos chers défunts et leur fin dernière. Nous ne savons pas où ils sont, excepté si nous avons la grâce d'avoir dans notre famille tel ou tel qui a été élevé à la gloire des autels, parce que bienheureux ou parce que saint. Plaise à Dieu que ce fût le cas, mais je pense que c'est assez rare. Pour le reste, nous ne savons pas du tout ce qu'il est advenu d'eux. Mais ce mois de novembre est également l'occasion pour nous, bien sûr, de regarder avec franchise, avec honnêteté, nos propres fins dernières. Et ces propres fins dernières, peut-être, adviendront-elles dans la journée, mes frères. Alors il serait temps que nous prenions au sérieux non seulement la miséricorde de Dieu, mais également notre propre responsabilité. Dieu ne demande qu'à pardonner, mais si nous ne remettons pas un grief à un de nos frères et que nous tenons mordicus, pertinax, dit-on, vous voyez que le terme en latin est plus frappant, pertinax, non, je ne veux pas pardonner, ne nous leurrons pas, nous n'aurons pas la vie éternelle. C'est, d'une manière un peu différente, ce qu'on peut voir, percevoir, du moins, en filigrane, dans l'épître d'aujourd'hui, où saint Paul fait allusion à la glorieuse armure du chrétien, qui est revêtue des sacrements, qui est revêtue du casque du salut, qui est revêtue des sandales de l'évangile, qui a le bouclier de la foi, c'est magnifique tout cela. Cet immense appareil que Dieu nous a donné pour lutter contre le mal, contre notre propre nature incurvée vers le péché, contre Satan et les forces du mal, cet équipement-là, malheureusement, ne pourra nous apporter aucune victoire si nous laissons une brèche se faire dedans, c'est-à-dire si nous manquons de charité. La charité est ce qui permet à cette cuirasse, si vous le voulez, d'être entretenue. C'est cette graisse qui vient aux jointures de l'armure assouplir le cuir. C'est ce qui permet à l'armure métallique de tenir contre les coups. Si nous n'avons pas la charité, nous aurons beau déployer toutes sortes de prouesses dans le combat de la foi, malheureusement, nous n'aurons pas accès au salut. Ces paroles sont graves. Vous me direz que je ne fais que paraphraser l'évangile d'aujourd'hui, que vraiment j'ai fait mieux en matière de commentaires. Je vous l'accorde. Mais je crois que ce qui importe vraiment en ce début de mois de novembre, c'est de se fixer devant les yeux, encore une fois, une bonne fois pour toutes, que nous n'obtiendrons pas le salut si nous acceptons que petit à petit, en nous, un kyste apparaisse, une petite impureté, un manque de pardon à l'égard de quiconque, que nous laisserions, comme dans une sorte de jardin secret dans lequel personne ne peut pénétrer, surtout pas Dieu et sa miséricorde, si nous laissons faire cela, nous ne rêvons pas encore une fois, nous n'aurons pas le salut. Alors, ceux d'entre vous qui auraient peur de comparaître en se disant vraiment, je n'arrive pas à pardonner à Madame Michu, ma voisine, je n'arrive pas à pardonner à mes enfants, à mon époux, mon épouse, mes parents, peu importe, parce que il est vrai que certains nous imputent, plutôt nous provoquent des torts très graves sur nous. Comment pardonner un viol? Comment pardonner la trahison de ses parents, l'abandon? Comment pardonner ces choses-là? Mes chers amis, lorsque je vous dis qu'il ne faut pas que nous entretenions cette rancœur à l'égard de quiconque, je ne suis pas en train de vous dire que tout se fera d'un seul coup et sans que des blessures persistent. N'ayez pas peur si vous avez encore, disons, des passions mauvaises contre des personnes qui objectivement vous ont fait du mal. À cela vous avez droit, bien sûr. Je vous dis simplement qu'il ne faut pas s'entretenir là-dedans et qu'il faut au moins avoir la volonté un jour de sortir de cette ornière et de pouvoir avoir la force de pardonner. Cela suffit à notre salut. Vous voyez finalement qu'après une exigence qui peut vous paraître un mur, en réalité les choses sont un peu plus aisées dans la mesure où Dieu se contente d'un commencement de début de volonté de pardonner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.